Vous écoutez un balado de la Fabrique culturelle de Télé-Québec.
On disait tout le temps, moi et Alex, avec qui j'avais réalisé l'album, c'est sûr que genre dans 10 minutes, on se réveille puis on est toutes passantes en train de faire Darlene puis on est comme, hey, j'ai rêvé que genre l'album il sortait là, puis ça marchait en tabarnak puis tout ça. Puis genre, c'était toujours ça notre joke les deux ensemble à chaque fois qu'il y avait des trucs insane qui se passaient parce que c'était comme tout le temps des affaires malades qui se passaient. T'sais. Puis genre, de partir de quelque chose d'aussi organique puis de pouvoir vivre des affaires aussi insane avec le monde avec qui tu l'as fait, c'était mémorable, c'était incroyable.
Je m'appelle Fabiola Nirva-Aladin, je suis comédienne, enseignante, chanteuse, mais surtout mélomane. Je vous présente une série balado qui nous plonge dans l'histoire d'albums marquants de la musique québécoise. Dans cet épisode, on s'intéresse au premier disque d'Hubert Lenoir, Darlene, qui a connu un succès inattendu au Québec.
J'ai grandi pendant longtemps sur de la musique qui était comme, j'avais aucune idée c'était quoi pour moi, de la musique alternative ou même l'idée de la musique locale n'existait pas parce que de comment j'avais grandi, j'avais pas de contact avec ça. J'écoutais n'importe quel shit qu'un jeune de 12-13 ans va écouter à l'époque, tu sais. Mais j'avais un intérêt pour la musique vraiment fort. Fait que je dévorais tout ce que je pouvais trouver. Mais ce que je trouvais, c'était la radio commerciale, ce que Musique Plus proposait. Mon frère avait commencé à être dans un band de métal. Fait que là, j'écoutais un peu de métal aussi que mon frère me faisait écouter. Puis du rap, c'est ça que le monde écoutait à l'école.
Hubert Chiasson, alias Hubert Lenoir, est pas encore majeur quand il fait ses premiers pas sur scène. C'est son grand frère Julien qui l'aide à ouvrir ses horizons musicaux.
La guitare a été le premier truc. Puis aussi parce qu'à ce moment-là, tranquillement, je transitionnais d'écouter plus des trucs contemporains, comme, mettons, du rap ou des choses comme ça. Puis mon frère jouait du métal, fait qu'il y avait des guitares de métal chez nous. Fait que j'ai comme commencé à apprendre la guitare parce que je me suis comme dit, c'est comme ça que tu peux écrire une chanson. Fait que j'ai commencé à apprendre les basics de comment écrire une tune. C'était l'époque Bandcamp, le highest de la musique, genre indie, alternative. Puis en même temps, je découvrais aussi genre David Bowie, le rock en général. Fait que là, j'étais comme, je me suis mis sur une espèce d'obsession de ça. Ou est-ce que tranquillement, tu délaisses un peu ce que tu connais, puis là, tu deviens plus. Là, t'es comme, OK, je veux être une rockstar, puis je veux genre jouer de la guitare. C'est ça qui s'est passé.
Hubert Lenoir acquiert de l'expérience de scène et de studio avec le groupe The Seasons, qui fait de la tournée au Québec et à l'international. Même s'ils ont du succès, c'est malheureusement pas assez pour subvenir à leurs besoins. C'est à ce moment-là qu'Hubert Lenoir commence à jouer de la musique dans les rues du Vieux-Québec.
En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'avec Jérôme 50, qui est un ami de longue date, là, bien avant Jérôme 50 ou quoi que ce soit, en fait, amis, on s'est rencontrés en jouant dans la rue. Lui, il faisait comme il jouait de la guitare, puis il avait comme un kick puis un snare genre avec ses pieds, classique busking style. Puis on faisait des covers de blues à l'époque. J'avais comme une obsession sur le blues. Puis là, on faisait un show, mais moi j'étais comme debout, puis j'avais un micro, puis c'était comme la manière la plus payante parce qu'il fallait vraiment que tu donnes un show au public. Puis c'était comme une façon d'attirer l'attention sur soi, mettons. C'était en étant debout, puis en dansant, puis en donnant un fucking show. Je suis vraiment né de ça. Ça fait partie de mon ADN à vie, mettons. Ça peut...
Après un spectacle au Cercle, Hubert Lenoir fait une rencontre qui va changer sa vie. L'artiste multidisciplinaire Noémie Desleclerc, qui est dans le public ce soir-là, a un véritable coup de foudre pour le jeune chanteur. Elle va se présenter et c'est le début d'une grande complicité. Quelques mois plus tard, Hubert et Noémie commencent à rêver à ce qui deviendra Darlène.
Parce qu'au début, on voulait faire un film. Mais là, le film, c'était pas possible. Fait qu'elle écrit Darlène un peu comme un scénario. Puis on s'était convaincu que ça va être un livre avec une soundtrack. Puis ça va être le prix de consolation un peu de pas avoir fait notre projet ambitieux de film. Puis là, moi à cette époque-là, j'étais dans la musique depuis longtemps. Fait que j'avais aucune économie. Elle avait travaillé au McDo pendant plusieurs années, caissière. Puis elle avait accumulé 7000. Puis elle m'avait... Elle a dit, 7000, va faire l'album. J'ai jamais vu quelqu'un avoir aucun doute de moi. C'était comme, si ça a marché, tu vas être une star, genre, tu vas être une rockstar, ça a marché. J'étais comme, OK, good.
Noémie et Hubert habitent dans un minuscule appartement du quartier Saint-Sauveur, à Québec. Pendant que Noémie écrit l'histoire de Darlène, Hubert compose la musique comme si c'était la trame sonore d'un film.
Là, à cette époque-là, il y avait comme tous les genres de blockbusters, comédies, dramatiques, sentimentales de, mettons, de 98 jusqu'à 2005. Puis les trames sonores de ces films-là, il y avait beaucoup, beaucoup de musique vraiment variée. Des fois, il y avait des original soundtracks, mais il y avait aussi comme des tunes qui étaient prises. Puis beaucoup de trucs genre des années 70, genre le early 70s. Puis moi, j'étais comme, je veux voir de la musique de même. Genre, c'était comme ça, Darlene, c'est venu de cette idée-là. Puis moi, à cette époque-là, la musique qui me représentait, parce que j'avais une obsession pour vraiment un son précis des années 70. Là, je commençais aussi à découvrir beaucoup la musique québécoise aussi de ces années-là aussi, qui était comme, je veux dire, pour moi, qui est comme un peu encore aujourd'hui un âge d'or de la musique québécoise. Là. Le comme Lindbergh, ben l'album avec Louis Forestier, là, ça a déboulé vers après ça, Jaune, Toucher du bois, puis toute une couple d'albums de Claude Dubois à cette époque-là, Diane Tell. En vrai, que ça, là, j'ai comme vraiment, vraiment découvert ces artistes-là aussi, tu sais. Ben, moi, ce que je voulais faire, c'est faire un album un peu comme les albums qui m'obsédaient à l'époque, tu sais. Genre, un band dans une pièce, vraiment des bons musiciens, pas d'arrangement prévu d'avance. Je faisais écouter la maquette, puis après, on figure out des parts, puis on faisait des takes. Ça avançait de même, on en faisait plein de basics, mais quand même beaucoup de monde dans la même pièce qui jouait. J'aurais dit que ça allait être un album de jazz. Instrumental. Ce qui était ça, principalement, parce que les premières chansons que j'ai écrites, c'était beaucoup de chansons instrumentales. Donc, la deuxième half de Darlene, qui est presque toute instrumentale, mais il y en avait plus, il y en a qui n'ont pas fait la cote, mais il y avait plus de musique instrumentale. Puis, dernière minute, un peu par... j'ai comme décidé de mettre plus de tune pop dedans, tu sais. Comme genre... J'ai écrit Fille de personne, j'ai écrit Ton hôtel. J'avais déjà recommencé qui était sur l'album. C'était comme sûr qu'elle allait être là. Mais tu sais, dans ma tête, il allait avoir comme 8 tonnes instrumentales, peut-être genre 3 chansons, tu sais.
L'enregistrement de l'album se fait en pleine canicule au Pantoum, un complexe de création musicale de Québec. Hubert Lenoir travaille en co-réalisation avec Alex Martel, Shampoing à la prise de son et des musiciens comme André Larue, P.E. Baudouin, Simon Kearney, Vincent Gagnon et son frère Julien Chiasson. Après les sessions en studio, il contacte un célèbre bassiste qui est aussi directeur musical et réalisateur d'albums. Ils s'étaient croisés quelques années avant sur un plateau de télévision.
Il y a une autre personne qu'il faut mentionner qui est importante dans le processus de cet album, c'est Philippe Brault, qui a mixé l'album. Puis lui, je l'avais contacté parce que là, j'avais peut-être utilisé, là, il me restait comme, je pense qu'il me restait tellement plus beaucoup d'argent là, pour mixer. Puis, mais quand je suis allé le voir avec Darlene, qui était comme fini d'enregistrer. Fait que j'étais arrivé avec quelque chose qui était fini, mais comme pas complètement fini. Puis comme dernière seconde, j'ai enregistré des voix, j'ai ajouté des synths, j'ai comme... Ah, coupe ce bout-là, ramène-le là. Puis c'est incroyable ce qu'il m'a donné à ce moment-là. En vrai, c'est là qu'on a ajouté avec Phil un espèce de dernier truc que, selon moi, ça, c'est cette espèce d'affaire-là qui rend Darlene exceptionnelle. Pour moi. C'est très instinctif, réalisé. Puis, t'as un son que t'entends. Puis, des fois, ça fonctionnait, des fois, ça marchait pas à mon goût. Je trouvais que c'était comme pas ça. Puis, donc, Fille de personne, que j'avais une idée extrêmement forte de comment il fallait que ça sonne. Puis, Phil a été vraiment bon pour, étant le réalisateur aussi, pour comprendre ce que je voulais dire par là, tu sais. Puis d'agir au mix. Puis un peu, puis on en a jasé ensemble aussi. J'ai beaucoup, dans ce genre de 5-6 jours-là qu'on a mixé, là, j'ai tellement beaucoup appris. Puis, Fille de personne, je m'en souviens que quand Phil avait mixé, des fois je le laissais, je restais comme pas loin, mais des fois je le laissais un peu travailler, mettons une heure ou deux, tu sais, comme mixer, trouver une chanson. Puis, on faisait beaucoup de back and forth, puis il y avait une manière dont je voulais que le refrain hit. J'avais fait faire une ligne par André Larue, qui est le saxophoniste, qu'on avait fait octave down. Puis c'était comme... C'est comme... Puis cette part-là est extrêmement importante. Puis il y avait une façon avec les volumes qu'il fallait que ça ait comme vraiment forte quand tu l'écoutes, ce genre de ligne-là, de brass un peu. Puis... Il fallait que ça marche, puis on tweakait, puis là, on essayait. Puis là, à un moment donné, comme j'étais parti, on mixait à Montréal. Là. Puis là, c'était comme proche, j'étais allé au café, là, le Olympico. Prendre du café, puis le fil, j'avais comme dit, OK, essaye ça, puis envoie-moi ça. Puis il me l'avait envoyé. J'avais écouté ça sur mes écouteurs. Puis là, je me rappelle comme, on était rendu le soir, en fin de journée. Puis là, j'écoute comme, Fille de personne, puis là, le refrain rentre. Je suis venu te dire que tu peux changer. J'ai vu une araignée de femme libérée. Où tu portais le cuir et la tête rasée. J'ai vu ton avenir. Puis je vais me rappeler toute ma vie de ce moment-là. Genre, une coupe de larmes. Puis j'étais comme, that's it. Le feeling, puis c'était tellement intense que j'étais comme genre, fuck, c'est tellement huge, là. Puis comme, j'étais tellement fier de ce que j'avais accompli, puis il y avait une partie de moi, j'étais comme, oh man, ça... J'avais comme peur de ce que cette tune-là pouvait faire pour moi. J'étais comme, c'est... J'avais comment dire, j'avais l'impression d'avoir créé un monstre, un peu. J'ai rejoué des films. première journée d'enregistrement de Darlene avec les... avec toute la gang, la première journée au Pantoum. J'avais dit... le chic, je vous ai contacté en disant que c'était un album de jazz, instrumental. Là, il y a comme des tunes qui sont rajoutées. Mais au final, ce qu'on fait, c'est un album de punk. Je sais pas s'il a compris ce que je voulais dire, mais moi, dans ma tête, je me comprenais. Puis quand est venu le temps de faire le show, j'étais comme, il faut comme que ça soit vraiment plus intense, genre, vraiment plus. Puis j'avais pris un gros drap, puis j'avais spray paint Darlene dessus. Puis dans ma tête, j'avais la vision, j'étais comme, OK, faut que ça soit ça. Genre, je vais avoir un gros backdrop spray paint en blanc. Puis un peu aussi parce que, I guess que je m'en allais un peu à guerre avec ça, là, parce que j'avais pas trop préparé ma shot. Puis là, il y avait comme rendu succès qui était autour du projet. Puis j'étais allé dans une zone où est-ce que je connaissais, où est-ce qu'il était comme la rue, tu sais. Genre, on est parti en tournée, puis genre, c'était comme vraiment le fucking rock'n'roll, là, qui a comme rentré dans ma vie de même. Ça a été comme très... Ça a vraiment été par étapes, puis ça, c'est une longue affaire. Puis après ça, tu mélanges le succès, puis la célébrité qui arrive, puis comme plein de choses qui se passaient dans ma vie à ce moment-là. Mélangé à genre à tout le temps chaud, puis comme beaucoup d'excès, beaucoup de voyagements, beaucoup d'aventures, beaucoup de... C'était fucking intense pour elle. Mais ça valait la peine d'être vécu.
Peu de gens s'attendent à ce que Darlene connaisse autant de succès. Tellement qu'aucune tournée est prévue à la sortie de l'album. Mais ça change rapidement. Les spectacles dans les salles, les bars et les festivals commencent à s'enchaîner. Cette année-là, Hubert Lenoir gagne une dizaine de prix. À la disque, il remporte Choix de la critique, Album de l'année pop, Chanson de l'année pour Filles de personne 2 et Révélation de l'année. Il profite justement du gala pour répondre à ses détracteurs qui se font de plus en plus nombreux et, on va se le dire, de plus en plus agressifs. Il va aussi marquer les esprits en s'enfonçant un de ses Félix dans la gorge.
Moi, il y a toujours eu un besoin genre d'entertainment puis d'humour dans ce que je fais. Puis on dirait que ça clashait avec ce que le monde, ce que, mettons, l'espèce de mainstream québécois dans lequel j'étais un peu exposé sporadiquement, malgré moi, ça clashait dans cet univers-là. Puis je pense que c'est ça, je pense que je dérangeais beaucoup, tu sais. Je pense que, et puis c'est comme même pas sur plein d'aspects, là, tu sais. J'ai comme... Puis c'est comme au début, c'est drôle, tu sais, tu ris. Genre, tu trouves ça comme des gobastis, je peux pas croire que... Puis la manie à la longue, c'est comme un peu, hein, c'est comme à l'usure un peu. Puis la manie, c'est que tu commences à le... C'est difficile de pas commencer à le croire, à un moment donné. Tout ce que le monde dise sur toi. Puis c'est comme... Tu deviens... Ou est-ce que l'espèce de persona public que le public t'a construit, que t'as pas tant choisi, c'est un peu qu'ils t'ont construit une espèce d'identité... À un moment donné, tu commences à croire que t'es ça. Puis les lignes se brouillent un peu. Puis ça allait dans des zones... Ça allait, je veux dire, c'est allé dans des zones intenses. Là. Je pense que l'art, c'est une conversation avec la société, avec le monde dans lequel tu vis. Puis je trouve toujours que... C'est pour ça qu'il y a beau dire que l'indifférence, ce serait la pire chose que je pourrais expérimenter en tant qu'artiste. Tu sais, quand le monde, mettons, il déteste ce que je fais ou quoi que ce soit, ou quand je fais une performance, puis un peu comme quand je jouais dans la rue, en fait. Il y a du monde qui riait, il y a du monde que ça les gossait parce que je criais trop fort. Au moins, là, on est dans quelque chose, tu sais. On a une conversation, tu sais. Le monde qui hate, actually, ils se font prendre dans le... Ils se font pogner dans le panneau parce que c'est comme si c'est trop tard. T'as déjà embarqué dans la conversation avec moi, tu sais. Fait que tu fais partie de la conversation. C'est ça qui est nice. C'est ça qui, c'est ça, chose, c'est la chose la plus belle d'en faire des albums, c'est que un coup que c'est fait, c'est fait. Après ça, il est réécouté par d'autres personnes, puis il est redécouvert probablement chaque jour par du monde qui l'ont jamais écouté, puis t'as plus aucun contrôle là-dessus. Il y a quelque chose de très, très rassurant et sain dans la manière de voir ça, surtout à l'époque où est-ce que tout le monde se demande comment, genre, faire de la musique, puis là, il n'y a plus d'argent, puis là, il n'y a plus ci, puis... C'est comme, hey, au moins, il y a comme, il y a ça. Moi, du moins, ça me garde focussé sur ce qu'il faut que je fasse. Savoir que, comme, tu fais quelque chose, et ouais, ça s'en va dans l'univers.
Y'a pas juste Céline est une série balado de la Fabrique culturelle de Télé-Québec, réalisée en partenariat avec Transistor Média et animée par moi, Fabiola Nirva Aladin. Réalisation, Julien Morissette. Musique originale, montage et mixage, Jean-Sébastien Côté. Chargé de production, Florence Crête-Lafrenière. Recherche, Delphine Lamotte et Gabriel Touin. Gestion contractuelle, Julie Pelletier et Marie Gagnon. Graphisme, Étienne Ducaire. Eddie Mestre, Elisabeth Laure. Chef de contenu, Ariane Graton-Jacob. Dans cette deuxième saison, on vous propose 5 autres épisodes sur les albums marquants de la musique québécoise avec Mitsou, Alexandra Strelitzky, À la claire ensemble, Mara Tremblay et Les vulgaires machins. La première saison avec Richard Desjardins, Lassa Desella, Boule Noire, Mazayan, Carquois et Fred Fortin est également disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion.
Écoutez tous nos balados sur balado.téléquébec.tv.